Ben. À la une, on revient sur ce drame à Taonoa et les mots du président du pays sur notre antenne. On entendra Richard Teuva depuis le Timor-Leste sur le comité des 24, Joinville-Pomaré aussi qui annonce un grand événement pour le 29 juin et enfin de la musique avec nos oreilles pour terminer. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Rabreau. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Lucie, on commence ce journal avec ces propos du président du pays concernant le décès de la fillette à Taonoa.
Un drame qui s'est déroulé mardi soir. Elle avait 7 ans, elle s'appelait Aiden. Elle était placée dans une famille d'accueil qui vit dans le quartier de Taonoa et son décès a choqué le pays. Polynésie la première parle de coups. Le parquet dit avoir vu des marques de manque de nourriture, de soins et d'hygiène sur son corps. Une enquête est en cours et des personnes ont été placées en garde à vue. Le frère et la sœur de la victime, également dans ce foyer, ont été retirés et envoyés en centre spécialisé. Et nous avions le président du pays, Moetai Broverson, en direct sur notre antenne il y a quelques minutes. Il a réagi à ce drame.
Un sentiment de profonde tristesse, évidemment. La perte d'un enfant, surtout dans ces âges-là et dans ces conditions, c'est un drame pour nous tous. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse collectivement, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc là, on va attendre les résultats de l'enquête et surtout comprendre comment est-ce qu'on peut agir pour que ça ne se reproduise plus.
Et hier soir, sur le plateau de Polynésie la Première, la directrice de l'association polyvalente d'action sociale judiciaire, Cécile Moreau, a regretté le manque de moyens de la DSFE. Les travailleurs sociaux ne sont pas suffisamment nombreux, a-t-elle dit, ce que confirme le président du pays.
C'est une situation qui est préoccupante et c'est un glissement qui s'est opéré ces 20 dernières années. C'est un métier qui est difficile. On est finalement tous les jours confrontés à la misère humaine. Quand on revient à la maison, j'imagine que on a aussi, avant qu'on arrive, on avait des conditions de rémunération et de gestion des astreintes qui étaient défaillantes. Donc nous avons augmenté les ISS, les indemnités de sujétion spéciale pour les assistants socio-éducatifs. Et nous avons également résolu le sujet des astreintes. Mais tout ça ne suffit pas encore aujourd'hui à résorber finalement le déficit, pas en poste, mais en vocation.
Voilà, et aujourd'hui, on essaie de réparer tout ça, a conclu Moetai Broverson, qui a annoncé également la nomination d'un délégué interministériel à la lutte contre les addictions et contre les violences en Conseil des ministres.
Vous écoutez le journal de la rédaction. On quitte Tahiti maintenant pour le Timor-Leste avec le séminaire régional du comité spécial de décolonisation de l'ONU.
Oui, ça a commencé mardi et après avoir entendu le Tapura hier, on va entendre les indépendantistes. Le Tavini continue de demander des comptes à l'État, notamment sur cette différence de traitement entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Depuis 12 ans, la Polynésie est réinscrite sur la liste des pays à décoloniser. Il n'y a donc pas de différence avec la Nouvelle-Calédonie. La question a été posée par la représentante du pays, Marie va quitter à l'ongle chat à l'ambassadrice de France et la réponse n'a pas vraiment satisfait les indépendantistes, comme l'explique Richard Touriava.
La réponse de l'ambassadrice a été plutôt évasive, que chaque situation et chaque territoire était différente et qu'il fallait à un moment donné une forme de cohérence parce qu'on ne peut pas réclamer en même temps une différence en tant que Polynésien et demander le même traitement que la Calédonie à l'ONU lorsqu'on est devant les instances onusiennes.
Le Tavini continue de faire pression pour que ça change et applaudit la proposition de Mareva Kitalong-Lechat qui a invité au nom du pays le comité spécial de décolonisation à organiser le prochain séminaire régional du Pacifique en 2027 à Tahiti, un moyen peut-être de mettre la pression sur l'État.
Toute mission de visite de l'ONU dans un territoire français nécessite l'accord préalable de la puissance administrante. Et qui dit accord préalable dit reconnaître le rôle de l'ONU dans la relation institutionnelle entre la Polynésie et la France. Et pour l'instant, la ligne politique des diplomatiques de la France, c'est de ne pas reconnaître ce rôle-là. La pression est plus sur un plan diplomatique parce que ça nécessiterait que la France change de posture radicalement et elle n'est pas encore prête.
Et Richard Touriava s'est amusé aussi de la présence du Tapura, trouvant normal que toutes les forces vives d'un pays soient entendues, mais pointant du doigt leurs contradictions. Le Tapura s'est effectivement ému de l'invitation faite au comité des 24 à Tahiti, mais ils sont d'accord pour une mission de visite de l'ONU sur le territoire. Pour Richard Touriava, il devrait commencer par participer aux travaux de la commission spéciale sur la décolonisation à l'Assemblée de la Polynésie française. Le responsable indépendantiste a tout de même dit la satisfaction du Tavini de voir l'ambassadeur l'ambassadrice de la France siégée au comité des 24, alors que pendant plusieurs années, l'État refusait même de se présenter à ses séminaires sur les questions polynésiennes. Aujourd'hui, il est là et il y a un début de débat et donc un début de progrès, même si les lignes politiques n'ont pas beaucoup changé.
La suppression du 29 juin du calendrier officiel des jours fériés continue de faire polémique.
Et c'est au tour de Joinville-Pomarez de s'énerver. Lors d'une conférence de presse ce matin, il a fait le lien entre les problèmes fonciers et le traité d'annexion du fameux 29 juin 1880. Il considère que les engagements pris à l'époque ne sont pas respectés. Ce qu'il souhaite, c'est que la France applique les conditions du traité signé le 29 juin, un texte qui, selon lui, avait été validé à l'époque par l'Assemblée nationale, le Sénat et le président Jules Grévy, et qui devait garantir que les affaires foncières restent dans les mains des Tahitiens. Il accuse la France et les politiques d'être à l'origine de la pauvreté de la population polynésienne.
Notre peuple est pauvre aujourd'hui. Il est mendiant. Il est devenu quelqu'un de très malade par rapport à ce qui s'est passé ici, par rapport aux essais nucléaires. Aujourd'hui, nous demandons à ces hommes politiques de respecter la date du 29 juin, pas l'emballage. L'emballage, ce n'est pas le problème pour nous. C'est le contenu de ce traité. Le contenu aurait été respecté. Aujourd'hui, aucun Tahitien ne serait pauvre. Tous les Tahitiens ont des propriétés.
Dans cette dynamique, il lance donc un appel aux familles polynésiennes, royales, de chefs, à toutes nos familles pour qu'elles se lèvent et réclament les terres restantes. Il annonce d'ailleurs une tournée dans les îles sous le vent du 8 au 16 juin pour sensibiliser les populations à l'importance du traité et surtout occuper les terres qui leur appartiennent. Joinville-Pomarez annonce aussi une grande manifestation le 29 juin prochain.
Et du côté de la justice, le Ranelagh fait de nouveau parler de lui.
Et oui, le Ranelagh, c'est ce luxueux hôtel particulier du 16e arrondissement parisien qui avait été acquis en 1992 par Gaston Flosse au travers d'une SCI familiale, la société Riquitéa. Elle avait fini par vendre en 2010 ce très bel immeuble avec une tout aussi belle plus-value. Sauf que l'opération à 615 millions de francs avait attiré l'œil du Trésor public. Il avait obtenu en justice la mise sous scellé du produit de la vente ainsi que des parts de la SCI que détenait Gaston Flosse. L'idée, c'était de s'assurer que l'ancien président rembourserait bien à la Polynésie les salaires indûment versés au travers d'emplois fictifs condamnés par la justice. La Chambre territoriale des comptes avait fait le calcul. Plus de 240 millions de francs et amendes comprises à payer solidairement avec les nombreux bénéficiaires de ces contrats cabinets. Un dossier complexe qui est arrivé tout récemment sur la table de la Cour d'appel administrative de Paris, Charlie René.
Oui, et c'est loin d'être la première fois que les juges parisiens se portent sur le dossier. Gaston Flosse a déjà tenté par tous les moyens de récupérer l'argent de la vente du Ranelagh. Cette fois, c'est la SCI Riquitéa dans laquelle on retrouve son fils Réginald et son ex-femme Tonita qui a lancé le recours, et plutôt que s'adresser à la justice, elle s'est adressée à la Polynésie. En février 2023, à quelques mois des élections territoriales, la société demande au pays et à son président d'alors, Édouard Fritsch, de demander lui-même au Trésor la main levée des séquestres et au passage de l'indemniser à hauteur de 500 millions de francs pour l'avoir privé d'actifs importants pendant 13 ans. Mais surtout, la SCI et son avocat Maître Hussang demandent à l'administration du pays de connaître le solde exact des dettes qui motivent le blocage de ces sommes. Car parmi les débiteurs désignés à l'époque par la CTC, on y trouvait Édouard Fritsch, Michel Buyard, Thomas Moutam, Bruno Sandras ou Cyril Le Gaïc, entre autres, beaucoup ont déjà remboursé et depuis longtemps. Le problème, c'est que le pays a rejeté toutes ses demandes et que le tribunal administratif, saisi dans la foulée, n'a pas fait droit au recours de Riquitéa. Une décision qui vient d'être confirmée pas plus tard que la semaine dernière par les juges parisiens en appel. Donc, l'argent du Ranelagh reste donc bloqué.
Et oui, ça fait déjà 15 ans et ça ne met pas fin au litige. Ce que dit la Cour d'appel de Paris, c'est que l'ordre administratif est incompétent dans cette affaire. Maître Hussang a donc d'ores et déjà déposé une demande de main levée des séquestres devant les juridictions de l'ordre judiciaire. On entendra donc encore parler du Ranelagh.
Allez, musique maintenant avec ce chanteur qui rêve d'aller à The Voice.
Sacré artiste de l'année au Thierry Music Awards 2025, Nohorei Temayana pense désormais tenter l'aventure The Voice France. Il a du succès au Fénois avec ses tubes Toa Marama en 2018, Rei Avarua et Vahine en 2020 et puis récemment Veirau Mati ou encore Yahura Tetaurea. Alors pourquoi ne pas tenter sa chance au-delà des frontières du Fénois? Et puis The Voice, eh bien c'est un rêve de gosse.
Avant, je pensais ne pas avoir le niveau. Je pense que je me suis amélioré. Je pense pas avoir le niveau encore, mais j'ai pris un peu en expérience. Et si j'ai l'opportunité de pouvoir réussir à passer un casting, je serai aux anges. Il faut que j'essaye, parce que si j'essaye pas, je vais regretter toute ma vie. Que je passe ou que je passe pas, j'ai envie d'essayer.
Voilà, et suivre les exemples de Mano Salmon, chanteur et bassiste du groupe Tikahiri, qui avait électrisé les auditions à l'aveugle de The Voice avec sa reprise de Metallica en 2019. Et avant lui, Eto, qui avait brillé dans La Nouvelle Star en 2017. Allez, no hate, les inscriptions à The Voice France sont ouvertes en ligne depuis février. Il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour les informations. Maintenant, on passe à la météo sur Radio.